Il est midi et demi sur France Culture. L'heure pour vous de retrouver le journal d'Antoine Mercier. Antoine, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Début de l'examen des textes sur les fausses nouvelles à l'Assemblée. Un texte qui vise à introduire la possibilité d'engager une procédure en référé pour suspendre la diffusion de fausses informations. Avant des élections, explications et enjeux d'Anne Fauquemberg dans un instant. Selon une enquête de la cellule investigation de France Info, Emmanuel Macron aurait bénéficié de ristournes de la part d'entreprises. Lors de la campagne présidentielle, plusieurs prestataires qui auraient accordé des tarifs très préférentiels aux candidats d'En Marche, notamment sur des locations de salles, analyse politique avec Stéphane Robert. Le PDG de Lactalis, Emmanuel Beignet, qui s'exprimait ce matin devant une commission d'enquête parlementaire sur sa gestion de l'affaire de lait infantile contaminé au salmonelle. À aucun moment nous n'étions au courant de la présence de salmonelle dans nos produits, affirme-t-il, suivi de cette audition avec Anne-Laure Chouin. Les apiculteurs enregistrent des mortalités d'abeilles importantes depuis la sortie de cet hiver. Ils réclament donc un plan de soutien exceptionnel. Reportage lors de manifestations à Paris avec Véronique Rebérotte. L'ouverture demain du G7 à Québec, le Premier ministre canadien et le président français affichent leur intention de faire front commun dans la guerre commerciale opposant Washington à ses alliés. Commentaire d'Éric Biegala. Et puis le gouvernement espagnol du socialiste Pedro Sanchez qui prête serment ce matin et c'est le plus féminin que l'Espagne ait connu. 11 femmes ministres et 6 hommes, commentaire de Nadine Epstein. L'invité de la séquence interview, ce sera notre confrère Sébastien Faletti qui est auteur d'un livre intitulé La piste Kim, voyage au cœur de la Corée du Nord aux éditions des Équateurs. Dans la dernière partie de la grande table, Olivier Gesbert.
Un hashtag, paye ton auteur, une pétition, pas d'auteur, pas de livre. Et deux questions, quel statut pour les écrivains et la création, à quel prix? Nous en parlerons avec notre invité, le sociologue professeur au Collège de France, Pierre-Michel Menger, sera avec nous à partir de 12h55.
Les députés donc entament l'examen des textes législatifs qui sont très controversés sur les fausses nouvelles. Il s'agit de deux propositions de loi déposées par le parti du président qui visent à introduire la possibilité d'engager une procédure en référé sous 48 heures pour suspendre la diffusion d'une fausse information avant des élections. Selon la définition retenue, serait donc considérée comme une fausse information toute allégation ou imputation d'un fait dépourvu d'éléments vérifiables de nature à la rendre vraisemblable. Bonjour Anne Fauquemberg.
Bonjour.
Alors qui détient le pouvoir de discerner le vrai du faux? Évidemment, c'est une question qui est à la fois technique et philosophique. Rappel d'abord de ce que contient cette proposition de loi, ces textes qui sont déposés par La République En Marche.
Alors, les deux textes, tout d'abord, l'un est ordinaire, l'autre est organique pour des questions de procédure, car le débat touche à l'élection présidentielle qui est régie par la Constitution. Les évolutions législatives, elles se trouvent dans la proposition de loi ordinaire, dont le titre a évolué après son passage en commission. Il est désormais question de lutte contre la manipulation de l'information et non plus de lutte contre les fausses informations. Tout est dit de la complexité du débat, on va y revenir. 10 articles dans ce texte, c'est le premier qui monopolise l'attention. Premier article donc qui crée une nouvelle procédure en référé en période préélectorale et électorale pendant 3 mois avant le scrutin. Un candidat ou un parti pourra saisir le juge des référés qui pourra décider de faire cesser la diffusion d'une fausse information. Juge qui pourra sous 48 heures décider de déférencer un lien internet par exemple. Toutes les élections générales sont concernées, présidentielles, européennes, parlementaires, mais aussi les référendums. Et cet article, c'est la conséquence d'expériences vécues lors de la dernière présidentielle. 2 exemples marquants. La rumeur du compte offshore aux Bahamas d'Emmanuel Macron à quelques heures du deuxième tour de la présidentielle et la campagne de calomnie menée contre Alain Juppé qui, souvenez-vous Antoine, au moment de la primaire à droite, avait été surnommé Ali Juppé, grand mufti de Bordeaux sur les réseaux sociaux.
240 amendements déposés. Le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, qui balaie sur France Inter les critiques de l'opposition et d'une partie des journalistes qui estiment que les mesures prévues vont permettre au contraire de mieux exercer la démocratie. Des syndicats de journalistes considèrent ce texte comme inefficace, potentiellement dangereux. Le patron des députés Les Républicains, Christian Jacob, craint une police de la pensée. Marine Le Pen dénonce un texte liberticide. À gauche, Boris Vallaud du Parti Socialiste dénonce une loi de circonstance. Et Jean-Luc Mélenchon, une grossière tentative de contrôle de l'information. Comment se présenter présente donc ce débat, Anne Fauquemberg, sur le plan des principes.
Eh bien, il se présente sous forme d'une grande tension. D'un côté, les députés LAREM qui plaident la bonne foi et le pragmatisme. Ils sont vraiment convaincus que ce texte va apporter un outil supplémentaire et nécessaire pour protéger notre démocratie face aux évolutions technologiques et cette toile à Internet qui n'a pas de limite. De l'autre côté, des parlementaires de l'opposition qui mettent en garde contre un risque d'engrenage, contre la naissance d'un ministère de la vérité qu'a si bien décrit en son temps l'écrivain George Orwell. Et puis, qu'est-ce qu'une fausse information ? En commission, vous l'avez rappelé, les députés l'ont ainsi défini. Toute allégation ou imputation d'un fait dépourvu d'éléments vérifiables de nature à la rendre vraisemblable. Tout ça reste flou, des fausses infos qui se diffusent 6 fois plus vite que des infos vérifiées. La vitesse de la justice ne pourra jamais égaler celle de leur propagation, estime l'avocat Jean-Pierre Mignard, spécialiste du droit de la presse. Les syndicats de journalistes comme le SNJ estiment que la proposition de loi est aussi inefficace et potentiellement dangereuse. On met le doigt vers quelque chose qui pourrait conduire à de la censure, estime la secrétaire générale Dominique Pradallier. Et puis, que fait-on pour la vraie information ? Laissons bien travailler les journalistes, suggère-t-elle.
Merci beaucoup, Anne Fauquemberg. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, défend ce matin la proposition de loi La République en marche qui vise à interdire le portable dans les écoles et dans les collèges, signale à la société française sur cet enjeu de société qui répond à des enjeux éducatifs clés, dont la protection des mineurs, a dit le ministre, selon qui encore être ouvert aux technologies du futur, ça ne signifie pas que nous devons les accepter dans tous les usages. Enquête maintenant de la cellule investigation de France Info. Emmanuel Macron aurait bénéficié de ristournes de la part d'entreprises lors de sa campagne présidentielle. Il y a plusieurs prestataires qui auraient accordé des tarifs très préférentiels aux candidats d'En Marche et notamment sur les locations de salles. Le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, souligne que les comptes de campagne d'Emmanuel Macron avaient été validés par la Commission nationale des comptes. Il était l'invité ce matin de France Inter.
Écoutez, la Commission nationale des comptes de campagne a validé les comptes d'Emmanuel Macron. Ils ont été ceux parmi les gros candidats les moins réformés, puisqu'il y a 120 000 euros de réformation. C'est important que vous y consacriez donc une matinée, mais comme Jean-Luc Mélenchon, lui, a eu 450 000 euros de réformation, je vous propose que proportionnellement vous y consacriez 2 journées, et que Marine Le Pen a 870 000 euros. Là, je crains que vous ayez à passer la semaine avec Madame Le Pen. Je vous souhaite bon courage.
Quand on porte la loi sur la moralisation de la vie publique, est-ce que c'est pas intéressant pour les électeurs de savoir à quelles conditions les uns et les autres ont fait campagne et à quel prix ?
Il est parfaitement normal, et d'ailleurs les commissions de comptes de campagne répondent à l'ensemble des questions, les documents sont publics, et je vais vous dire même avant que la commission de campagne ne s'y intéresse, puisque nous avons été piratés pendant la campagne et la totalité des mails de nos équipes de campagne sont dans la nature. Les gens peuvent aller regarder, je les invite à le faire.
Benjamin Griveaux avec Léa Salamé. C'était donc ce matin sur France Inter. Stéphane Robert, bonjour.
Oui, bonjour Antoine.
Bon, dans quelle mesure ces informations peuvent handicaper politiquement le chef de l'État ?
Eh bien, on peut certes considérer que ces ristournes ou ces rabais constituent une forme de don déguisé, mais il n'y a pas là véritablement de truandage, de détournement de fonds. On n'est pas vraiment dans l'illégalité, on est plutôt dans ce qui peut être qualifié de petits arrangements entre amis. Et c'est un peu gênant pour Emmanuel Macron qui s'est érigé comme le champion de la moralisation de la vie publique. Il a fait voter une loi juste après son élection en juin 2017. 3 de ses ministres, François Bayrou, Marielle de Sarnez, Sylvie Goulard, avaient démissionné à ce moment-là suite à l'ouverture d'une enquête sur les assistants parlementaires européens du Modem et au nom justement de la morale en politique pour ne pas gêner l'action du nouveau président. Et donc cette affaire de rabais accordé par des amis entrepreneurs fait un peu tache sur le tablier immaculé du chef de l'État. Et même si les proches d'Emmanuel Macron essaient de présenter les choses à son avantage en expliquant que c'est comme ça que ça se passe dans le nouveau monde, on négocie et on obtient des ristournes, tout ça ressemble plutôt à ce qui se pratiquait dans le monde d'avant. Un monde où l'entre-soi, un monde de l'entre-soi où l'on s'arrange entre gens de bonne compagnie pour ne rien arranger. Cette histoire arrive concomitamment avec cette enquête ouverte suite aux révélations de Mediapart sur les liens qu'entretient l'actuel secrétaire général de l'Élysée et ami d'Emmanuel Macron, Alexis Keller, avec le croisiériste et armateur privé MSC. Cette affaire et ces affaires ne semblent donc pour le moment, en tout cas, pas constituer un handicap de nature à gêner l'action politique du chef de l'État, mais ça le fait tout de même descendre un peu de son piédestal de champion de la morale en politique.
Stéphane Robert, merci. Le groupe automobile Ford ouvre des négociations pour un plan social sur le site de Blanquefort en Gironde. L'industriel avait annoncé la fin de la production en 2019, communiqué ce matin du ministre de l'Économie Bruno Le Maire, qui déclare qu'à ce stade, eh bien, une reprise de la totalité des salariés apparaît possible et l'ouverture d'un plan de sauvegarde de l'emploi ne semble donc pas justifié, monsieur Le Maire, dans un communiqué donc précise qu'il regrette vivement cette décision de la direction de Ford. Le PDG de Lactalis, Emmanuel Beignet, qui était ce matin devant la commission d'enquête parlementaire pour s'expliquer sur sa gestion de l'affaire de lait infantile contaminé au salmonelle. C'était à la fin de l'année dernière. En fin 2017, 36 nourrissons avaient été atteints de salmolénose après avoir bu un lait infantile d'une usine, l'usine de Cran en Mayenne. Et contrairement aux insinuations, a-t-il dit ce matin, il ne s'agit pas d'une fraude. Et à aucun moment nous n'étions au courant de la présence de salmonelle dans nos produits. Le PDG du groupe estime que la contamination de lait infantile dans son usine était un accident. Donc sans responsabilité de personne à l'intérieur même de l'usine. Anne Lorchouin, bonjour.
Bonjour.
Au total, qu'est-ce qu'on retient de cette audition?
Alors d'abord, on rappelle le contexte dans lequel elle s'inscrit, à savoir la tentative des avocats de Lactalis de torpiller cette enquête des parlementaires au motif qu'une autre enquête judiciaire, celle-là, est en cours actuellement. Tentative vaine, puisque les députés ont maintenu la commission et les auditions, donc en rappelant qu'ils n'étaient pas là pour juger, mais pour tirer les enseignements de cette crise de la salmonelle. Des députés qui donc n'étaient pas dans les meilleures dispositions face au PDG de Lactalis, d'autant que celui-là avait avant cela refusé de s'expliquer devant les sénateurs. C'est donc en faisant profil bas que s'est exprimé Emmanuel Beignet, en renouvelant ses excuses auprès des familles des enfants contaminés et en admettant avoir failli à sa mission de base, d'un ton, il est vrai, assez désincarné, qui a certainement échauffé plusieurs des députés présents. « Ne lisez pas vos notes, mais répondez-nous », ont-ils demandé avec ces questions. Pourquoi a-t-il fallu, non pas un, mais quatre rappels de lait infantile avant d'être sûr que plus aucun bébé ne serait infecté? Pourquoi avoir indiqué au groupe Intermarché que ces retraits étaient effectués pour suspicion de gastro-entérite et non pas de salmonelle? Pourquoi avoir incriminé dans cette crise le laboratoire à l'origine des contrôles? Pourquoi le problème de la salmonelle dans l'usine de Cran n'est-il pas réglé alors que la bactérie a été détectée en 2005, 2011, 2012 et 2013. C'était un accident. Certes, ces salmonelles présentes dans nos bâtiments et échappées lors de travaux n'ont pas été détectées, mais ça n'est pas de notre faute, c'est bien celle du laboratoire. C'est ce qu'ont répondu en substance Emmanuel Beignet et les autres responsables du groupe. En résumé, ils acceptent d'être éventuellement responsables, mais certainement pas coupables. On m'a présenté comme un fraudeur parce que je suis discret, a argumenté le PDG de Lactalis. Dans certains cas, lui a répondu le président de la commission d'enquête, il faut savoir forcer sa nature.
Anne Lorchouin, merci. Les apiculteurs qui sont mobilisés aujourd'hui pour demander un plan de soutien, ils enregistrent des mortalités d'abeilles très importantes. Depuis la sortie de cet hiver, ils réclament un plan de soutien exceptionnel ainsi qu'un environnement qui soit viable pour leur colonie d'abeilles. Ils manifestent, ils sont réunis dans plusieurs villes en ce moment, notamment à Paris, place des Invalides, où ils ont d'ailleurs pu parler directement au ministre concerné qui s'est rendu auprès d'eux. Vous êtes sur place, Véronique Roberotte.
Oui, une visite surprise d'un ministre qui compatit, ça fait plaisir, devant un cimetière de ruches, de cercueils, de combinaisons d'apiculteurs mis en bière. Nicolas Hulot est venu apporter son soutien à des apiculteurs français en pleine détresse, jusqu'à 90% parfois des colonies d'abeilles décimées à la sortie de cet hiver, donc une hécatombe. Un ministre de l'écologie concerné par le danger des pesticides à tueurs d'abeilles, mais pas prioritaire, on l'a compris, face à son collègue de l'agriculture, échange avec quelques apiculteurs.
Et quand j'entends le ministre qui quelque part nie un peu en disant « Oh, c'est pas si grave que ça ».
Moi, je vais essayer. Là, c'est pas la peine que j'alimente une confrontation avec mon collègue. C'est pas comme ça qu'on avancera.
Tout à fait.
Maintenant, tous ces sujets-là, on les a mis sur le tapis et on va pas les faire disparaître. Voilà. Donc on va. Alors après, il y a un calendrier. Il y a ceux qui, comme mon camarade Jadot, voudraient qu'on sorte du glyphosate demain matin. Et puis il y a ceux qui pensent que ou même hier. Voilà. Et puis voilà. Donc, ce qui est important, c'est ça soit irréversible, programmé, et qu'on essaie de faire en sorte que personne soit dans une impasse. Voilà.
Nicolas Hulot n'assistera pas ensuite à l'hommage funèbre avec sonnerie aux morts qui a suivi, à l'appel désespéré d'apiculteurs lancé en direction de l'État, du principal aussi syndicat agricole, pour promouvoir d'autres pratiques agricoles, en finir avec l'agrochimie.
Ça suffit. Du courage et au boulot à présent. Il faut sauver l'apiculture nationale et faire cesser l'hécatombe.
Le glyphosate est autorisé encore 3 ans, soi-disant pour donner le temps à la FNSEA de trouver d'autres alternatives. Il y a eu la loi de 1905 pour la séparation de l'Église et de l'État. Nous demandons la loi de 2018 pour la séparation de la FNSEA et de l'État.
Voilà, les apiculteurs espéraient ensuite se rendre à l'Élysée pour interpeller directement le président Macron. Ils ont été très vite arrêtés dans leur élan par les forces de l'ordre.
Véronique Rebérotte, place des Invalides à Paris avec Georges Thau pour les moyens techniques. Un G7 s'ouvre demain à Québec. Est-ce qu'il va se transformer en G6+1? C'est la question qui est posée. Hier à Ottawa, le Premier ministre canadien et le président français défendaient en effet un multilatéralisme fort. Justin Trudeau et Emmanuel Macron affichaient leur intention de faire front commun dans la guerre commerciale qui oppose Washington à ses alliés. Et l'Élysée indique ce matin que les deux dirigeants sont prêts à tout, à tout accepter pour avoir un communiqué commun avec les États-Unis au moment de ce G7, ils envisageraient des scénarios alternatifs. Éric Bégala, bonjour.
Bonjour Antoine.
Donc à quoi pense-t-on? De communiquer peut-être?
Comme le reconnaît un diplomate français, l'expression G6+1 et non plus G7 ne fait d'ores et déjà que décrire une réalité, savoir que les États-Unis sont clairement en train de sortir de tous ces forums et accords multilatéraux les uns après les autres. Et il sera sans doute très difficile de parvenir à une déclaration commune endossée par les 7 pays les plus industrialisés à l'occasion de leur 44e sommet, demain après-demain à la Malbaie au Québec. Alors certes, souligne-t-on encore du côté de l'Élysée, il y a bien quelques dossiers sur lesquels les 7 peuvent s'accorder, le dossier syrien par exemple, ou la Corée du Nord. En revanche, pour ce qui est de la guerre commerciale qui se profile avec les droits de douane sur l'aluminium et l'acier relevés par Washington et qui touche aussi bien les Canadiens que les Européens, notamment les Allemands présents au G7 ou les Japonais, on se trouve là dans une configuration pratiquement à 6-1. Autre dossier qui normalement est en tête de l'ordre du jour de ce G7 sous présidence canadienne, le changement climatique, les énergies propres et la protection des océans. Alors là, c'est peu de dire que l'administration Trump entend clairement faire cavalier seul sur ces sujets, elle qui a ostensiblement dénoncé l'accord de Paris sur le climat pour finalement en sortir. Même chose avec le partenariat transpacifique, même chose avec l'accord sur le nucléaire iranien qui ne tient plus qu'à peine après sa dénonciation par Washington. Et même sur des engagements plus restreints pour ce qui est du nombre de parties prenantes, comme l'accord de libre-échange nord-américain, l'ALENA, qui n'engage que le Canada, les États-Unis et le Mexique depuis 1994, Washington entend aujourd'hui non seulement le renégocier, mais surtout en négocier les termes différemment, en bilatéral, une négociation avec le Canada, une autre avec le Mexique, autant dire faire exploser l'ALENA. En fait, l'administration Trump met tellement d'ardeur à dynamiter, dénoncer ou s'affranchir de ses accords aux forums internationaux qu'on finit en effet par se demander ce qu'elle vient faire dans un G7 aujourd'hui.
Éric Bégala, le gouvernement espagnol du socialiste Pedro Sanchez a prêté serment devant le roi Philippe VI ce matin. C'est le plus féminin que l'Espagne ait jamais connu. 11 femmes ministres, notamment à des postes clés, l'économie, les finances, la défense, la justice et 6 hommes seulement. Mais il est aussi, il faut le dire, le plus minoritaire depuis le rétablissement de la démocratie en Espagne. Il ira sans doute difficilement jusqu'au bout de la législature, soit en 2020. Bon, il ne faut pas forcément faire de lien entre ces deux informations, Nadine Epstein.
L'Espagne est en tête des pays où la place des femmes dans la politique, comme d'ailleurs dans la vie publique ou citoyenne, est de plus en plus visible. Depuis 2004, la parité respectée au gouvernement et au Parlement national, la représentation féminine dépasse les 36%. À l'intérieur du Parti Socialiste Espagnol, les femmes ont défendu avec ardeur et de longue date l'accès des femmes à la représentation politique. Elles ont revendiqué la mise en place de quotas sexués dans les instances représentatives et exécutives des partis. Dans la société espagnole, le 8 mars dernier, des mouvements de femmes d'ampleur inédite ont eu lieu dans les grandes villes du pays pour réclamer l'égalité des droits et des salaires. 5 millions d'Espagnols se sont mis en grève. Le succès de la mobilisation a obligé les autorités à tenir compte des revendications d'égalité des droits et des salaires et cette question a conduit au fait qu'aujourd'hui, Carmen Calvo, 60 ans, ancienne ministre de la Culture, soit nommée comme vice-présidente du gouvernement et elle dirigera un ministère de l'égalité. L'ancienne procureure antiterroriste Dolores Delgado arrive à la justice. Là aussi, la nomination d'une femme n'est sûrement pas étranger aux manifestations de mai dernier à Pamplune, 35 000 femmes défilant contre l'impunité d'un viol de 5 hommes contre une femme. Et puis vous l'avez dit, d'autres portefeuilles passent au féminin, la défense, l'éducation, le travail, la santé, l'économie, le portefeuille et 2 autres catalanes rejoignent également l'équipe dirigeante. Première réaction devant ces 11 postes sur 17 confiés à des femmes, le choc d'une partie de la presse qui se traduit par cette question matinale, le Conseil des ministres devait-il être baptisé le Conseil des ministres.
Nadine Epstein, merci. Aucune femme, en tout cas, ne figure dans le classement annuel des 100 sportifs les mieux payés de la planète, établi par le magazine Forbes, publié ce matin. Pour la quatrième fois en 7 ans, c'est le boxeur américain Floyd Mayweather qui arrive en tête du top 100 avec des revenus de 285 millions de dollars, donc pour un an. Léo Messi, footballeur argentin du FC Barcelone, et son rival portugais du Real de Madrid, Cristiano Ronaldo, complètent le podium. On évoque maintenant la Corée avec notre invité, l'invité de la séquence interview, notre confrère Sébastien Faletti, bonjour.
Bonjour.
Auteur donc de la piste Kim, voyage au cœur de la Corée du Nord, c'est publié aux éditions des Équateurs. Bon, je vous pose la première question, est-ce que ce sommet aura finalement lieu ou pas selon vous?
Alors, avec Donald Trump et Kim Jong-un, on peut... Jusqu'à la dernière minute, il faut rester sur ses gardes, bien sûr. On sait que ces dernières semaines, il y a eu des revirements. Alors cependant, je pense qu'on désormais, on était de très fortes chances que ça ait lieu parce que ils ont mis les enchères très élevées. Aujourd'hui, s'il y avait une annulation, les deux personnages risquerait de porter le chapeau d'un échec. Ce serait un échec diplomatique pour Donald Trump qui a beaucoup investi là-dessus. Et puis pour Kim Jong-un qui veut un tête-à-tête avec la première puissance mondiale depuis le début de son règne et même depuis le début du régime nord-coréen. Donc des deux côtés, je crois qu'il y a un désir d'avoir ce sommet. Et je dirais que les revirements qu'on a vus ces derniers temps ne sont pas que des coups de sang. Ça répond aussi à une logique de négociation. Si vous voulez, on a vu la lettre fracassante de Donald Trump annulant soudain le sommet il y a une dizaine de jours, qui faisait suite à des déclarations assez au vitriol du régime nord-coréen. Mais sur le fond, c'était on avançait ses pions, on fixait ses lignes rouges, on est entré dans le vif du sujet. Donc la négociation a déjà commencé. Et donc, à Singapour, évidemment, il va y avoir une étape supplémentaire. Mais sans doute, cette négociation va se poursuivre bien au-delà si la rencontre a lieu et si elle se passe de façon relativement correcte.
L'annulation du sujet faisait partie donc de la préparation du sommet. Il fallait le comprendre. Mathieu Laurent, une question.
Oui, bonjour Sébastien Faletti. Vous êtes agrégé d'histoire et dans cet ouvrage vous nous livrez des clés pour comprendre que le clan est encore la solution héréditaire avec moyennant quoi quelques ajustements à la marge. Quels sont ces ajustements justement?
Alors effectivement, c'est une affaire familiale. On s'inscrit dans une histoire familiale en Corée du Nord. C'est la seule dynastie soi-disant communiste, en tout cas, de la planète. Moi, je pense que il y a des fondamentaux historiques. Évidemment, on fait souvent référence, par exemple, au confucianisme.
Les infusions et influences confucéennes.
Voilà, confucéennes, évidemment, qui ont façonné la Corée depuis des siècles, et l'influence chinoise. Elles sont là. On sait, par exemple, qu'il y a ce système de castes en Corée du Nord.
51 castes.
Voilà, 51 castes. Kim Il-sung avait divisé la population en trois grandes catégories, avec 50 sous-catégories. Il y a les personnes fiables, les personnes hostiles, et puis au milieu, il y a le marais, les gens qu'il faut surveiller.
Ces castes-là, ça correspond à quoi?
Ces castes, en fait, reprennent un modèle confucéen. Simplement, désormais, la critère était la loyauté au parti. Donc, il a choisi les familles. Donc, les familles qui étaient loyales, on les retrouve à Pyongyang. Ce sont les élites. Elles ont les meilleurs emplois. Donc, ça, c'est la base dès les années 50. Et il y a cette division de la société continue à perdurer aujourd'hui, même si il y a une révolution capitaliste souterraine qui a lieu en Corée du Nord.
Le marché qui surgit.
Et le marché surgit. Chacun s'est pris en main depuis la grande famine des années 90. Et du coup, aujourd'hui, évidemment, il y a une nouvelle petite classe marchande qui émerge. À Pyongyang, on voit de l'argent qui circule. Donc ça, c'est en train, à la marge, de modifier. Donc la Corée du Nord n'est pas un état monolithique, c'est pas une société monolithique, c'est une société en transformation. Bien qu'elle soit sous cloche sur le plan de l'information, il se passe des choses.
Alors oui, Sébastien Faletti, parce que le temps presse, un dernier point peut-être. Est-ce qu'il incarne, lui, Kim Jong-un, le respect de la figure paternelle?
Alors, c'est évidemment le leader, le souriant, c'est le représentant suprême de l'autorité. C'est un père pour tous les Nord-Coréens. Mais aussi, on a vu, les exégètes qui ont travaillé sur la propagande, que c'est plus complexe que ça. Il y a aussi un élément maternel chez les leaders nord-coréens.
Le grand-père, du côté de sa mère.
Le grand-père Kim Il-sung et sa mère. On voit que de la propagande nord-coréenne souvent présente le leader comme la mère de tous les... Il y a un aspect maternel. On voit les figures de la propagande. On voit les jeunes nord-coréens qui se reposent sur la poitrine du leader. Donc il y a une dimension maternelle qui est différente différente du patriarche confucien et qui puiserait aussi peut-être dans le nationalisme japonais, le nationalisme ethnique, qui est la base finalement de ce régime qui se prétend communiste, mais finalement la base elle est nationaliste. Et donc on a un mix tout à fait particulier en Corée du Nord.
Mais est-ce que ce régime est prêt à s'ouvrir véritablement ?
Eh bien, pour le moment,
parce que c'est la condition quand même apparemment.
Pour je crois que ce régime, pour le moment, on n'a pas de signe d'ouverture. En revanche, Kim Jong-un semble déterminé à vouloir accompagner le développement économique. Il a sans doute compris que c'était aussi une façon de renforcer son assise. La grande question, c'est est-ce qu'il veut... Oui, il veut des investissements, il veut de l'argent, mais il les veut peut-être sous son contrôle.
Comme les Chinois, finalement.
Alors, la différence, parce que les Chinois ont ouvert beaucoup plus, ils ont fait venir des investissements étrangers. Pour le moment, ce qu'on voit en Corée du Nord, c'est la mainmise du parti reste beaucoup plus ferme. Et certains disent qu'on a en fait une réforme sans ouverture.
On a ouvert justement cet entretien sur le sommet en parlant des deux personnalités en jeu, en question. Vous écrivez que Kim Jong-un est plus à droite encore que Donald Trump.
Ben, si vous regardez...
Signifiez-vous là par là?
Ben, je signifie que le régime nord-coréen est un régime basé sur un nationalisme ethnique, racial, voire qu'on peut dire raciste. Donc, ce que certains ont appelé la race des purs. Donc, si on voit les fondamentaux du régime nord-coréen, c'est un régime qui exalte cette pureté coréenne et qui, du coup, refuse de se mélanger. D'où l'autarcie, d'où l'idéologie du Juche. C'est l'idée qu'on ne se mélange pas. Et donc, le fil rouge de cette dynastie, c'est de garder l'indépendance. Et c'est pour ça que l'arme nucléaire est l'arme suprême, parce que l'arme nucléaire, ça lui permet de tenir tête aux voisins de la région et aux grandes puissances, et désormais de tutoyer les grandes puissances.
On peut se mélanger avec les Sud-Coréens quand même.
Alors
pas tout à fait pareil.
Ce qui est intéressant avec les Sud-Coréens, c'est qu'aujourd'hui, on ne parle plus beaucoup de réunification. On parle d'un rapprochement. On voit que Kim Jong-un n'a pas parlé de réunification désormais. Donc, il semble qu'il chercherait plutôt une forme de pacification pour récupérer aussi des appuis économiques.
Alors, j'étais frappé par vos 50 classes. Chaque Nord-Coréen sait dans quelle classe à quelle classe il appartient ?
Alors, pas forcément la population elle-même, mais le parti,
26,
le régime, c'est
55%, 20% voilà. Et un découpage.
Ils savent, déjà, si vous habitez à Pyongyang, vous savez que vous êtes parti, en gros, de la classe favorable au parti. C'est vous qui allez avoir les bons...
Les fiables, ceux qui sont fidèles, une fidélité incertaine.
Sébastien Faletti, merci beaucoup d'être venu dans ce studio, auteur de la piste Kim, voyage au cœur de la Corée du Nord, donc pour tout comprendre à partir de l'histoire aussi aux éditions des Équateurs. Un temps orageux à l'est et au nord, plus calme donc sur l'ouest et le sud, des températures de 17 à 25 degrés, édition réalisée avec Yacine Bouzard, prochain journal 18h, Aurélie Kiffer.